Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le premier rapport de l'AIF, l'autorité d'information financière du Vatican, a été présenté ce mercredi aux journalistes. Le Vatican souhaite être un partenaire efficace au niveau mondial qui agisse en cohérence avec une mission sur le plan moral. Éclairage dès le début de cette édition. Le pape François a lancé un appel à prier en communion avec les chrétiens de Chine le 24 mai à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Shéshan, honorée au sanctuaire de Shanghai. Il a demandé aux catholiques chinois d'être fidèles au Christ. Sa catéchèse portait sur le lien entre Esprit Saint et évangélisation. La France commémore ce jeudi les victimes de l'esclavage colonial. Nous avons recueilli le témoignage du président du comité Marche du 23 mai 1998. Bienvenue dans ce magazine. C'est un pas de plus vers la transparence dans les affaires du Saint-Siège. L'autorité d'information financière a rendu public pour la première fois ses activités ce mercredi. Le rapport annuel sur l'activité d'information financière et de surveillance en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été présenté en salle de presse du Saint-Siège par le directeur de l'AIF, René Brulard. Olivier Bonnel était sur place.
Expliquer la structure et le rôle de l'autorité d'information financière, l'AIF, tel est l'objectif de ce premier rapport numéroté AN1-2012. Un rapport qui se divise en trois parties, la présentation du cadre institutionnel et économique du Saint-Siège et de la Cité du Vatican, dans lequel s'inscrit l'AIF, l'organisation interne et les champs d'action de cette autorité, enfin des statistiques et analyses sur les activités suspectes décelées par l'organisation. Depuis sa création fin 2010 par le motu proprio de Benoît XVI, l'AIF a mis en place de véritables structures pour lutter contre les abus en matière de transparence financière et s'est progressivement mise en conformité avec les normes européennes anti-blanchiment, soulève le rapport. Le Vatican est déjà un partenaire crédible dans la lutte contre le blanchiment et le système de surveillance interne a commencé à fonctionner, s'est d'ailleurs félicité le directeur de l'AIF. L'autorité est amenée dans ses activités à signaler toute transaction financière suspecte, mais à aussi analyser les fraudes qui sont ensuite transmises aux promoteurs de justice du Vatican. Ce dernier ouvre ainsi une enquête pour faire la lumière sur les activités douteuses. La dernière partie du rapport d'activité donne des chiffres sur les signes relevés d'activités suspectes pour les années 2011 et 2012. 6 cas ont été signalés en 2012 qui concernent par exemple de grosses transactions en cash, sans donner plus de détails. Une seule activité suspecte seulement avait été relevée en 2011, preuve selon René Brulard de l'efficacité grandissante du système d'information de l'AIF. L'autorité devrait publier chaque année un rapport complet et son équipe de travail, actuellement composée de 7 personnes, pourrait être amenée à augmenter.
Le pape François a fustigé le capitalisme sauvage qui a provoqué, selon lui, la crise actuelle. Le Saint-Père s'exprimait lors de sa visite mardi soir à la Casa Dono di Maria, le Don de Marie, la maison d'accueil des religieuses missionnaires de la Charité, la congrégation fondée par Mère Teresa. Dans son discours devant une assemblée de pauvres, de religieuses et de bénévoles, le pape s'est attardé sur la signification des trois mots qui composent le nom de cette institution, la maison, le don et Marie. Mercredi, comme les précédents, des dizaines de milliers de fidèles ont envahi la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale. Le pape François invitait tous les fidèles à s'unir dans la prière avec les catholiques de Chine. Il s'exprimait à l'approche de la journée mondiale de prière pour l'Église en Chine, instituée par Benoît XVI en 2007 et célébrée le 24 mai en la mémoire liturgique de Marie, secours des chrétiens vénérés avec une grande dévotion dans le sanctuaire de Shéshan à Shanghai. Xavier Sartre.
Le pape François a souhaité que les catholiques chinois puissent annoncer avec humilité et joie le Christ mort et ressuscité, et qu'ils soient fidèles à son Église et aux successeurs de Pierre. Il a également espéré qu'ils vivent la quotidienneté au service de leur pays et de leurs concitoyens d'une manière cohérente avec la foi qu'ils professent. Notre-Dame de Shenzhen, a déclaré le pape, soutient l'engagement de tous ceux qui, en Chine, malgré les difficultés quotidiennes, continuent à croire, à espérer, à aimer, afin qu'ils n'aient jamais peur de parler de Jésus au monde et du monde à Jésus. À l'occasion de la journée mondiale de prière pour l'Église en Chine, un livret qui a pour titre « Fort dans la tribulation, persévérant dans la prière » a été publié en Italie. Il est destiné à accompagner les fidèles désireux de témoigner de leur proximité à leurs frères chinois et propose le canevas d'une veillée de prière comprenant des angles de réflexion portant sur l'histoire et les vicissitudes de l'Église en Chine, marquées par la souffrance et par des témoignages de foi émouvants. Le livret contient également des textes de Benoît XVI et des extraits de sa lettre aux catholiques chinois de 2007.
Le pape François, lors de l'audience générale, a par ailleurs invité à prier une fois encore avec lui pour les victimes de la tornade d'Oklahoma aux États-Unis et spécialement pour les enfants, soulignant la douleur des parents des victimes. Dans sa catéchèse, le souverain pontife avait poursuivi un approfondissement des passages du Credo, s'attardant plus précisément sur l'Esprit-Saint et son rôle dans l'évangélisation. Sans la présence et l'action de l'Esprit-Saint, l'Église ne pourrait pas vivre et proclamer l'Évangile.
C'è un profondo legame tra queste due realtà di fede.
Un lien très étroit unit le Saint-Esprit à l'Église, expliquait le pape. Il lui donne la vie et lui permet d'accomplir sa mission évangélisatrice. Cette mission confiée à chacun des fidèles est rendue vraiment efficace par l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui suggère les paroles de celui qui parle et qui ouvre le cœur et l'esprit de celui qui écoute en le disposant à accueillir la bonne nouvelle. Pour le pape, il est donc nécessaire pour évangéliser de s'en remettre totalement au Saint-Esprit et de se laisser conduire sans crainte. Il nous rend capables de vivre et de témoigner de notre foi et en même temps, il illumine les cœurs que nous rencontrons. Jamais aucune violence d'aucune sorte ne fait progresser l'être humain dans la connaissance de ce qui est bon et dans la volonté de le faire. Jamais aucune violence ne fait progresser l'amour. La violence ne produit que la violence et que la mort. Le cardinal André XXIII s'exprimait mardi soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris lors d'une veillée de prière pour la vie. Quelques heures auparavant, Dominique Vénère, un essayiste de 78 ans, ancien membre de l'organisation de l'armée secrète et figure intellectuelle de l'extrême droite française, s'était suicidé en se tirant une balle dans la bouche devant l'autel. Il avait publié un texte sur son blog dans lequel il réaffirmait son opposition au mariage pour tous. Nous avons recueilli la réaction de Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie.
Au fond, on est dans une société que l'on juge déchristianisée. Et bien, c'est la preuve qu'elle ne l'est pas, puisque à travers ce suicide d'un mouvement de l'extrême droite païenne et puis la soi-disant protestation des chémènes, mouvement d'extrême gauche païenne, et puis on voit bien que finalement l'imaginaire chrétien continue à marquer notre société. Je le dis sans ironie, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement frappant que de voir que Notre-Dame de Paris, l'hôtel de Notre-Dame de Paris, suscite à ce point-là des comportements qui sont des comportements évidemment blasphématoires dans un lieu de culte, mais il me semble que le blasphème est parfois une forme d'hommage involontaire à la religion. Notre-Dame de Paris, c'est un lieu qui a des siècles d'histoire, donc Notre-Dame en a vu d'autres. Le message chrétien, il est attendu dans notre société. Des actes aussi violents, aussi isolés, aussi absurdes que cela, rendent en fait la nécessité d'une véritable évangélisation encore plus évidente. Ce n'est pas, encore une fois, un suicide ou la protestation des chemins qui empêcheront demain des pèlerins de venir prier devant la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris.
Vous n'avez pas peur d'une récupération, qu'elle soit politique, idéologique, d'un tel acte ?
C'est un acte qui, évidemment, va être soumis à toutes sortes d'interprétations politiques. D'abord par Marine Le Pen, par le Front National. C'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'un idéologue de l'extrême droite. Je rappelle d'un courant d'extrême droite qui est un courant d'ailleurs en fait anti-chrétien. Il peut être interprété aussi dans le contexte polémique du débat sur le mariage pour tous. Cela dit, je ne pense en aucun cas que ce suicide puisse être interprété à cette aune en fait il peut se comprendre à la lumière de toute la vie et de tout le militantisme d'extrême droite de la personne qui s'est suicidée. Donc je crois que ça serait une erreur de l'interpréter dans le cadre du débat sur le mariage pour tous.
Jean-Pierre Denis, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Et comme il est d'usage en tel cas, une messe de réparation a été célébrée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Le 3 mai, la France commémore les victimes de l'esclavage colonial. Cette date rappelle d'une part celle de l'abolition de l'esclavage en 1848 et d'autre part celle de la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui a contribué au débat national aboutissant au vote de la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. La ville de Saint-Denis en banlieue parisienne concentrera comme chaque année les événements liés à cette commémoration. Une célébration œcuménique est prévue dans la basilique à partir de 17h. Cette journée, dédiée uniquement à la mémoire des victimes de l'esclavage, a été officiellement reconnue par l'État français en 2008. C'est le comité Marche du 23 mai 1998 qui en est à l'origine. Depuis maintenant 15 ans, le CM98 s'emploie à traiter la mémoire douloureuse et chargée de ressentiment des descendants d'esclaves antillais, guyanais et réunionnais. Nous en parlons avec son président Serge Romana.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, l'esclavage colonial, a laissé des populations très divisées, des populations avec une mémoire pleine de ressentiments, une mémoire très douloureuse, avec beaucoup de souffrance en évoquant cette histoire, beaucoup de violence. La première chose que l'on a faite en réalité, après avoir réalisé, compris cette véritable rupture qu'il y avait entre les générations d'aujourd'hui et les personnes qui ont vécu l'esclavage, nous avons beaucoup travaillé pour parentaliser, en fait, les personnes qui ont vécu l'esclavage, en fait, en tout cas les esclaves. Nous avons fait beaucoup pour faire que ces personnes puissent être considérées comme des hommes et des femmes. Donc ça a été des travaux dans des groupes de parole pendant près de 10 ans. Ça a été également d'instituer une journée en mémoire des victimes de l'esclavage, alors que jusqu'à présent, on honorait l'abolition de l'esclavage, mais on n'honorait pas justement ces personnes. Ce que l'on a fait, c'est que nous avons été dans les archives et nous avons retrouvé à peu près 110 à 120 000 personnes qui, en 1848, étaient toujours esclaves et qui ont été nommées à partir de 1848 et dont nous portons aujourd'hui les noms de famille. Ces personnes retrouvées, on les a mis à l'honneur dans un mémorial, dans des livres. Aujourd'hui, il y a un site internet où on tape simplement le nom de famille et on retrouve notre aïeul.
Quel lien entretenir justement avec la République française aujourd'hui?
Dans ce combat justement pour faire reconnaître nos parents, reconnaître leur humanité, eh bien, nous avons été obligés d'aller en direction de la République, de nos élus, du gouvernement, etc. Et en retour, ça nous permet de voir effectivement que cette République n'était pas celle que l'on imaginait, qui était toujours du côté de l'esclavage, ce qui est faux de toute façon. Et ça nous a donc permis de montrer à nos compatriotes qu'il fallait construire avec la République, qu'il fallait participer aux élections. Il y avait beaucoup d'abstention chez nous. Ceci nous permet de pouvoir faire un chemin, cheminer de façon positive.
Qu'en est-il des descendants de colons?
Quant aux descendants de colons, ils vivent avec les descendants d'esclaves. Une fois que nous avons apaisé notre mémoire, nous sortons donc à ce moment-là de l'accusation perpétuelle qu'il y avait sur eux. Ils ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Et ce qu'on leur demande, on leur demande d'être comme nous, des témoins de cette histoire, de faire ce chemin, de comprendre qu'ils ont à réfléchir à ce que cette histoire leur a légué. Donc des considérations des fois racistes, ils doivent faire l'effort de nous donner les archives. Et dans ce travail avec eux, parce que justement nous avons fait ce travail de pacification, nous pouvons aller vers eux, non pas avec une attitude accusatoire, mais en leur disant « mais faites ce chemin-là ». Parce que ces pays-là, c'est avec vous qu'on doit les construire.
Vous êtes opposé à des réparations matérielles, financières pour les descendants d'esclaves?
Nous avons fait l'expérience que l'argent ne pouvait pas faire le travail que l'on avait fait. Que l'argent demandait de l'argent conflictualiser le conflit, eh bien, au contraire, ça nous mettait du côté, on va dire, obscur du problème. Ça éloignait, en fait, les membres de notre communauté de ce travail de pacification. Et c'est pourquoi nous pensons que donner de l'argent pour la souffrance de nos parents, souffrance que l'on ne vit pas là actuellement, on vit, la souffrance qu'on vit est une souffrance, c'est une demande de dignité, une demande de reconnaissance. Aucune somme ne peut régler ce type de problème. Mais en plus, ça conflictualise les rapports entre la République et nous, et ça éloigne les nôtres du travail de pacification que nous sommes en train de faire.
Des propos recueillis par Thomas Chabol. L'image de l'autre, c'est sur ce thème que se déroulait ce mercredi à Vienne le premier atelier du CAICID, le Centre international pour le dialogue interreligieux et culturel, fondé par l'Arabie Saoudite, l'Espagne et l'Autriche, et pour lequel le Saint-Siège revêt le rôle d'organisme observateur fondateur. Parmi les participants, le père Ayuso, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ce travail a pour objectif de répondre au défi « Comment donner une image objective de l'autre ?» Une question qui sera étudiée durant 3 ans. En 2013, on se concentre sur l'éducation, l'année prochaine sur les masses médias et en 2015, c'est la sphère Internet qui sera prise en compte. En février dernier, à Madrid, une première rencontre du comité directeur du CAICID avait été organisée à l'occasion du 20e anniversaire des accords de coopération entre l'Espagne et les confessions évangéliques juives et musulmanes. Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.org. Plus de 2000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale jordanienne Amman ce mardi pour participer à une retraite au flambeau silencieuse. Ils demandaient la libération des deux métropolites, syro-orthodoxe et grec-orthodoxe, d'Alep, Grégorios Johanna Ibrahim et Boulos al-Yazigi, un mois après leur enlèvement. Cette marche silencieuse avait été convoquée par l'Assemblée des chefs des églises en Jordanie. En janvier 2009, une marche similaire avait été organisée à Amman afin de demander la fin de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza. La 20e session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement a ouvert ses portes à Rome. Elle se tiendra du 22 au 24 mai sur le thème « La sollicitude pastorale de l'Église dans le contexte des migrations forcées ». Le cardinal Antonio Maria Velio, président du dicaster, a rappelé que l'hospitalité était la marque de fabrique de l'Église. Évoquant le phénomène de l'exil qui touche au moins 100 millions de personnes dans le monde, il a dénoncé le trafic d'êtres humains présent dans la plupart des pays sous des formes très diverses. Le cardinal Velio a également insisté sur la protection des réfugiés. Malgré les progrès accomplis, il s'est inquiété de la diminution de la solidarité des pays industrialisés qui rend plus difficile le chemin des demandeurs d'asile, ce qui contribue à la contrebande. L'Église, a-t-il affirmé, doit mettre en pratique la solidarité par de nouvelles façons d'accueillir les immigrés, les demandeurs d'asile, les réfugiés, afin de demeurer fidèle à Jésus-Christ, étranger parmi nous. C'est la fin de ce magazine. Je vous remercie d'être resté en notre compagnie.